Chapitre 17. Le jour de gloire est arrivé. Lucette avait bien prévu des petits sacrifices, l'intimité du déjeuner n'existait plus, les conversations étaient maintenant à trois, les promenades également. Devant la jalousie de Rick, toujours prête à montrer ses petites cornes comme un escargot, il fallait s'effacer. Et pourtant, le mal que Rick se donnait pour être sans reproche. De part et d'autre, on avait fait de grands progrès. « Rick a de très belles qualités, je ne lui rendais pas justice, » faisait Lucette. Et Rick disait, « Comment ai-je jamais pu être si désagréable pour mademoiselle Lucette, quand je vois ce qu'elle est gentille ?»« Vous aviez tous les yeux clos, » déclarait Pierre en riant, « il vous a fallu mes yeux à moi pour y voir clair. » « C'est plus vrai que vous ne pensez, Pierre, » dit Lucette, tandis qu'ils étaient assis tous les trois sur un banc du jardin, près de la haie de roses du Bengale doucement fleurie. « Ce n'est pas que nous soyons changés bien à fond, peut-être, mais il y a une différence. Ainsi, moi, je sais et je reconnais que je suis capricieuse, impérieuse. »« N'en dites pas trop, » protesta Pierre. « Je n'en dis pas trop. Papa me gâte. » Il dit, avec tous tes petits défauts, tu as du charme, ma fille. Il n'est pas le seul à le penser, fit Pierre à demi-voix. Lucette rougit. Elle continua. Rick, tu es de mon avis, n'est-ce pas? Quand on voit ses défauts, on tâche un peu de s'en corriger. Mais il y a autre chose, Pierre. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous avez changé les idées de tout le monde. Ainsi, tenez. Grand-maman Dupin était tellement triste de devenir un peu sourde. À présent, elle pense aux mutilés de la guerre. Elle va s'occuper de ce malheureux soldat aveugle et sourd dont vous nous avez parlé. Elle a organisé un petit comité pour lui avec ses amis. Elle dit « Quand cela mérite d'entendre mal, je pense à Révigny. Vite, je lui écris une petite lettre en braille. » Elle réunira la somme nécessaire pour lui acheter une petite maison à la campagne où il aura ses enfants autour de lui. Et je vous assure, Pierre, que dans la famille Martin Dupin, la famille où on se lamentait parce que le caviar n'arrive plus, on ne se lamente plus de rien. Vous devez avoir remarqué, c'est vrai que nous avions les yeux clos hermétiquement. Tant de privilèges que nous avons, sans oublier celui de vous posséder sous notre toit. Ajouta-t-elle si affectueusement que Pierre en eut tout à coup la gorge serrée. Monsieur Martin aimait à arranger la vie des autres gens. Il y mettait une sorte de bienveillance inflexible à laquelle il fallait se plier. Il n'avait pas perdu de vue le projet d'une visite de Pierre à son groupe d'écoliers. Il avait fait lui-même la correspondance nécessaire. Il connaissait le président du conseil scolaire de cette petite ville agricole, cossue, antique. On consulta les horaires de chemin de fer. On décida que la petite excursion aurait lieu pendant le séjour de Rick et que grand-papa Martin en serait, comme protecteur, homme raisonnable et responsable. Le beau matin arriva. Lucette n'avait jamais été si contente de sa vie, pensait-elle. Elle était ravissante dans son joli costume de serge blanche, fine blouse de batiste à grand col brodé, souliers blancs, grand chapeau couvert de rose. Pierre voulut absolument qu'elle lui décrivît sa toilette, tandis que, seul dans le grand hall de la gare, ils attendaient grand-papa Martin qui tardait. Monsieur Martin était allé prendre les billets et Rick, sur le quai, montait la garde devant le wagon qu'il avait choisi. La minute du départ était là. Pas de grand-papa Martin. Plus tard, on sut que grand-papa Martin avait voulu à toute force acheter le journal de Genève dans un kiosque qui n'était pas ouvert avant 8 heures et qu'ainsi, sa dévotion pour le colonel Feiler lui avait fait manquer son train. Les trois voyageurs bien installés, très anxieux, épiaient le quai. Le sifflet du départ déchira l'air. « Téléphone-nous, papa, dès que nous serons arrivés. Téléphone au collège. » « Ne t'inquiète pas pour nous, tout ira bien dès que nous saurons qu'il n'est rien survenu de fâcheux à grand-papa. » Et les voilà partis. Chacun dans le wagon regardait le beau soldat, très crâne sous son béret d'alpin, sa médaille et sa croix sur son uniforme bleu capote. Dès qu'on remarqua sa cécité, les visages se crispèrent d'émotion, même des yeux se remplirent de larmes. Les proches voisins firent de petites manœuvres pour se rapprocher davantage et pour adresser quelques mots discrets de sympathie, de reconnaissance aussi, envers le soldat qui avait souffert pour le droit. Quelqu'un murmura « Sans la barrière de votre vaillance, notre petite Suisse aurait subi le sort de la Belgique. Jamais nous ne pourrons assez reconnaître ce que nous vous devons. » Lucette écoutait, émue et fière de cet hommage. Ainsi, à force de délicatesse, d'affection, d'attention, on pouvait faire oublier à Pierre son sort cruel, son irréparable malheur. Pendant tout le trajet, la même rumeur de tendre admiration les entoura. On pensait « Quel dommage qu'ils ne la voient pas, elle est si jolie !» Et on ajoutait « Comme ils ont l'air de s'aimer, elle ne pense qu'à lui. Elle le prévient, mais doucement, sans attirer l'attention. » Quant à Rick, il baignait dans la gloire de son cousin. Il s'oubliait lui-même complètement. Dans la grande gare, il fallait changer de train. Chacun s'empressa pour aider Pierre à descendre, mais lui protesta en riant. « mais non, je tiens encore debout !» Pour aller d'un quai à l'autre, Lucette guidait son précieux blessé vers l'escalier de fer incommode de la passerelle. Un employé se précipita. « Par ici, mademoiselle !» Il indiquait le passage planchéié qui coupait les voies, interdites au public. « Nous pouvons très bien prendre l'escalier comme tout le monde, » fit Lucette, gênée de tant d'attention. « Par ici, je vous en prie, » répéta l'employé. « Je serais blâmé par mon chef si on voyait un blessé monter la passerelle. » Il avait dit un blessé au lieu de dire un aveugle, et Pierre le remercia intérieurement pour cette preuve de tact. Mais comme un train stationné sur la troisième voie, barrant le chemin, l'employé dit un mot et, après quelques petites secousses qui donnaient à la longue chenille du train l'air de frémir de colère, deux wagons se séparèrent gentiment. Pierre et son escorte, fièrement, traversèrent la voie ouverte. « Cela tient du miraculeux !» fit Lucette quand ils eurent atteint leur quai de départ. « On a coupé un train pour vous, Pierre !» « Je me demande si on en aurait fait autant pour le président de la Confédération. » « C'est comme Moïse traversant la mer Rouge, » fit observer Rick doctement. « Tu sais, Pierre, c'est le filon de voyager avec toi. »« J'en suis presque gêné, » dit le jeune soldat. « Enfin, je me dis que ces hommages, on les rend à mes médailles, donc aux combattants et surtout à la France. Ça fait plaisir de voir cette sympathie pour notre cause. » « Vous n'avez pas peur, Lucette, que j'en prenne de l'orgueil personnellement ?»« Ce serait plutôt moi, » dit-elle, « je monte en grade à chaque minute. » « Quels braves gens, » songeait Pierre, « c'est un peuple sentimental et tendre, et emballé, et généreux, ce petit peuple roman, plus sentimental que nous autres Français. Nous les comprenons mal, on assure que chez nous, la raison l'emporte sur le cœur. Ici, c'est plutôt le contraire. Couper un train pour moi, c'est une manifestation extravagante si on veut, mais bien touchante tout de même. Je raconterai cela en rentrant à Paris, on ne me croira pas. Pour les combattants qui luttent si durement, un non-combattant n'a jamais fait tout son devoir. Pourtant, cette bonté, cette ferveur dont je suis l'objet parce que je représente la France, les rencontrerait-on si bien dans d'autres pays neutres ? Dans la seconde partie du trajet, la même sympathie les enveloppa. Lucette fut même très embarrassée et confuse du geste d'un voyageur bien mis, dont les sourcils froncés et la bouche serrée indiquaient l'émotion contenue, qui, en sortant du wagon, se pencha vers elle et laissa tomber sur ses genoux un billet de 50 francs, en murmurant presque sans remuer les lèvres, « Pour le soldat !»« Non, il ne faut pas !» protesta Pierre dès qu'il comprit. « Rappelez-le, Lucette !» Elle se mit à la portière, mais le voyageur avait déjà disparu et le train se remettait en route. Rick ne contenait pas sa joie naïve. « Eh bien, si ça continue ?»« J'espère bien que cela ne continuera pas, » dit Pierre. Et pourtant, cela continua avec des variantes. Quand le train entra dans la gare modeste de la petite ville qui était leur lieu de destination, Lucette vit une foule d'enfants rangés sur le quai, des plus petits au premier rang, portant des fleurs nouées de rubans tricolores. Sur le signal d'un grand jeune homme, probablement l'instituteur, un chant sortit, clair et vibrant, de toutes les bouches enfantines, la Marseillaise. Pierre se leva très ému et, tandis qu'il descendait, tous les voyageurs du train se mirent aux portières. « C'est ce que vous appelez être neutral !» s'exclama un gros monsieur en chapeau de feutre vert. « Enseigner la Marseillaise à de pauvres petits-enfants innocents, la chanter dans une gare, offenser les puissances centrales, j'en prends note !» Il tira son calepin. « Et quand nous viendrons chez vous, vous chanterez une autre musique. »« On vous chantera le sire de Fiche-son-camp, » rétorqua un autre voyageur. Le chasseur alpin, sa main sous le bras de Lucette, Éric de l'autre côté, abordaient les enfants qui, aussitôt, les entourèrent, élevant leurs gerbes de fleurs. Pierre dut serrer 50, 60, 100 petites mains qui cherchaient la sienne. « Cher soldat Pierre Roya, » prononça l'instituteur d'une voix vibrante, « les enfants dont vous voulez bien être le grand frère ont tenu à vous accueillir par un chant qui vous dit leur sentiment pour la France et par des fleurs qui vous disent leur amitié pour vous. » Pierre se hâta de présenter. « Mademoiselle Lucette Martin, dont la famille veut bien m'accorder l'hospitalité en ce moment, et mon jeune cousin Frédéric Lebroux, le fils d'une chère tante à qui je dois mon beau séjour en Suisse. » « Vive la Suisse !» ajouta-t-il en portant la main à son béret. Il y eut d'autres présentations, une dame institutrice et puis le comité Pierre Roya, s'il vous plaît, dont les 6 membres étaient reconnaissables à ce qu'ils portaient en épingle le corps de chasse des Alpins, ce que Lucette ne manqua pas de mentionner à Pierre. Ce comité mixte était composé d'un président et d'une présidente âgés de 12 ans, d'un secrétaire et d'une secrétaire, d'un trésorier et d'une trésorière. Pierre reconnut un nom. « C'est donc là mon gentil correspondant qui m'écrit si régulièrement chaque mois. Je suis heureux enfin de faire votre connaissance. » Le jeune secrétaire devint rouge de plaisir. « Et quel magnifique cadeau vous m'avez fait !» poursuivit Pierre. « Une montre, elle marche à merveille, ma machine à écrire. » Vous avez pu voir vous-même si elle écrit bien, et cette grande boîte de bonbons aux dernières étrennes. Vous le gâtez, votre soldat !» Tout doucement, Lucette dégageait la main de Pierre et la posait sur le bras de la jeune présidente. « Votre grand frère vous appartient aujourd'hui, » fit-elle, souriant à la fillette et faisant signe au petit président de s'approcher aussi. « Le jour de gloire est arrivé !» s'écria celui-ci, reprenant les paroles qu'il chantait tout à l'heure.